l'écoute de RFI. Merci d'être fidèle à la Radio Mondiale. Il est 2h à Paris, 1h de plus à Goma.
Mathis Limano.
Au sommaire de l'actualité, Washington condamne l'assaut du M23 et affirme la souveraineté de la RDC. À Goma, capitale du Nord Kivu, c'est la peur et le désarroi qui dominent parmi la population. 1 million d'habitants terrés chez elle et 700 000 déplacés qui ne savent parfois pas où trouver refuge. Les combats se poursuivent, le bruit des armes entendu jusqu'au centre-ville, des éléments du M23 soutenus par le Rwanda présents dans certains quartiers. Des sources médicales parlent d'au moins 17 morts et des centaines de blessés. L'Union européenne lève une partie des sanctions contre la Syrie. Elle visait l'ancien régime de Bachar el-Assad. À Damas, les nouveaux dirigeants saluent cette décision, mais elle est sous condition, vous allez l'entendre. Et puis en France, le chômage repart à la hausse. Les annonces de plans sociaux et de fermeture d'usines en sont la cause. 1 million d'habitants et 700 000 déplacés pris entre deux feux à Goma, selon l'agence humanitaire des Nations Unies. C'était la crainte de l'ONU, des ONG et des autorités congolaises que des affrontements se déroulent dans la capitale du Nord Kivu. Ces civils se retrouvent coincés, isolés dans les quartiers. Difficile d'établir un bilan des combats en ville, mais les centres de santé, notamment l'hôpital provincial du Nord Kivu, sont déjà saturés, Guillaume Thibault.
Les balles sifflent, mais les soins sont effectués. Face à l'afflux de blessés, les médecins n'ont pas le choix. Ils doivent faire le tri, donner la priorité à ceux qui peuvent être sauvés, comme l'explique cet urgentiste.
Malheureusement, nous avons pu enregistrer beaucoup de cas jusque-là. On essaie un peu de faire ce qu'on peut, d'étrier donc ceux qui peuvent être encore sauvés. C'est comme ça.
Faute d'ambulance, les blessés, notamment de nombreux enfants, sont amenés à l'hôpital par leur famille.
Je tiens à signaler que toutes les blessures, en tout cas, sont des blessures par balle. Par exemple, il y a un bébé de 2 mois qui a été touché, il y a une adolescente aussi. L'un de nous, de nos camarades, qui a été même touché, on vient à peine de le stabiliser. En tout cas, c'est catastrophique.
Ce médecin lance un appel à l'aide et à l'arrêt des combats pour faciliter l'accès aux soins.
Nous lançons juste un appel à la communauté internationale, au gouvernement congolais, afin d'intervenir. Tout ce que nous voulons, c'est revenir à la paix parce qu'on ne saurait pas soigner. Tout se blesser, tout le monde craint à sa vie.
Malgré le manque de personnel, de matériel, notamment de poches de sang pour les transfusions, l'équipe de l'hôpital provincial du Nord Kivu enchaîne les actes de chirurgie sans discontinuer depuis dimanche soir.
Et Washington condamne ce soir l'assaut du M23 et affirme la souveraineté de la RDC. À Goma, des sources hospitalières évoquent au moins 17 morts et 370 blessés en 24 heures. Les tirs d'armes automatiques continuent de résonner dans la capitale du Nord Kivu. Dans certains quartiers, la présence du M23 et ses alliés rwandais est avérée. Un mépris éhonté de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de la RDC, a dénoncé le Conseil de sécurité des Nations Unies après une réunion dimanche. Le dirigeant congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame ont confirmé leur participation à une réunion d'urgence de la communauté d'Afrique de l'Est ce mercredi. 300 000 personnes ont franchi le corridor de Netzarim ce lundi pour regagner le nord de la bande de Gaza. Ce sont les chiffres du gouvernement du Hamas. Une véritable marée humaine alors que d'autres continuent d'affluer. Le corridor a été ouvert après que le Hamas a communiqué la liste et l'état des otages libérables dans le cadre de la première phase de l'accord de trêve. 18 sont en vie, tandis que 8 autres sont morts, précise Israël. Les prochaines libérations doivent avoir lieu jeudi et samedi. L'actualité au Moyen-Orient, c'est aussi l'assouplissement des sanctions européennes contre la Syrie. Damas qui salue la décision de l'UE. Elle visait à l'origine le régime de Bachar el-Assad, mais c'est un assouplissement sous condition, soulignent les Européens, notamment l'inclusion des femmes ou la représentation des minorités. Pierre Benazé.
L'Union européenne n'annule pas les sanctions à l'encontre de la Syrie, mais elle les suspend. Ceci veut dire qu'elles pourraient être rétablies si, je cite, « des mauvaises décisions étaient prises ». Une levée réversible des sanctions, qui va s'appliquer au secteur susceptible de favoriser la remise en route de l'économie syrienne. D'abord le secteur financier, afin de rouvrir les vannes des investissements nécessaires. Ensuite l'énergie, car la Syrie est largement dépendante, en particulier pour l'électricité ou encore le kérosène aérien. D'ailleurs, les sanctions sur les transports, aériens en particulier, seront également suspendu, avec à l'horizon la réouverture des aéroports et la reprise des vols directs entre l'Europe et la Syrie, ce qui vise aussi à faciliter le retour des réfugiés. En revanche, certains volets des sanctions européennes restent en place telles quelles, comme par exemple les sanctions qui visent la famille élargie de Bachar el-Assad, ou bien les sanctions qui empêchent d'exporter vers la Syrie des matériels de sécurité qui pourraient être utilisés pour réprimer des manifestations. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
La décision d'assouplir les sanctions contre Damas a été prise par les 27 ministres des Affaires étrangères réunis ce lundi dans la capitale européenne où il est 2h05. Et 20h05 à Bogota, le bras de fer entre le président Gustavo Petro et Donald Trump est désormais clos après la menace américaine d'imposer une série de sanctions contre la Colombie. Bogota a finalement accepté le rapatriement de ses ressortissants expulsés par les États-Unis. Le chef d'État colombien s'était insurgé contre leurs conditions de détention et d'expulsion. Mais selon Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, responsable du programme Amérique latine Caraïbes, la résistance affichée par Gustavo Petro peut influencer d'autres pays de la région à s'opposer aux méthodes de l'administration Trump.
Il est clair qu'il y avait un test envoyé de la part de M. Trump et probablement de M. Rubio, son secrétaire d'État, pour envoyer un message âpre au président colombien. D'autres immigrés clandestins ont été renvoyés au Brésil dans des conditions peu ragoûteuses, qui sont arrivés avec des chaînes aux pieds par les avions au Brésil. Donc bref, il y a quelque chose qui a été lancé, qui est de l'ordre d'une réaction latino-américaine régionale solidaire avec Petro, qui ne va pas s'arrêter et qui va continuer dans les jours prochains, indépendamment du fait que, après la confrontation sur X entre les deux présidents, etc., aujourd'hui, tout indique que le gouvernement colombien veut temporiser, y compris parce que le gouvernement colombien est sous la pression de sa propre droite, qui fait signe d'allégeance à Trump en disant qu'il fera recevoir encore plus de clandestins dans leur pays. Mais cette temporisation, il faut comprendre qu'elle va avoir un effet secondaire qui sera probablement aujourd'hui une concertation plus large en Amérique latine entre les chefs d'État vis-à-vis de cette diplomatie du rapport de force qui rappelle la doctrine Monroe, en quelque sorte, pour beaucoup d'États américains.
Un propos recueilli par Nicolas Roca. Le Brésil qui se rebiffe à l'image de la Colombie. Le gouvernement de Brasilia a convoqué ce lundi le chargé d'affaires de l'ambassade américaine. Il exige des explications sur, je cite, le traitement dégradant infligé aux 88 expulsés brésiliens. Et en politique intérieure américaine, ces dernières mesures de Donald Trump, il a annoncé la construction d'un dôme de fer antimissile pour protéger les États-Unis, à l'image du dispositif utilisé par Israël. Un décret également signé prochainement par le président américain afin d'interdire l'idéologie transgenre dans l'armée, sans précision sur son application concrète. Il souhaite aussi réintégrer aux forces armées les militaires écartés pour cause de non-vaccination contre le Covid-19. Plusieurs millions de consommateurs européens de soda doivent les ramener où ils les ont achetés. La société qui met en bouteille les boissons de la marque Coca-Cola en Europe procède à un rappel massif de ses produits. En cause, selon elle, une teneur trop élevée en chlorate, un sous-produit du chlore. Ça concerne les canettes et bouteilles en verre Sprite, Fusty, Minute Maid, Tropico et Coca-Cola. Le risque sanitaire est très faible, tente de rassurer l'entreprise. Ces sodas ont été distribués en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en Belgique. En France, les produits n'ont pas eu le temps d'être commercialisés. La France, où les annonces de plans sociaux et de fermeture d'usines sont légion ces derniers mois. Des faillites qui contribuent à la hausse du chômage dans le pays, plus 3,9% sur le dernier trimestre de l'année 2024. Hors crise Covid, c'est une augmentation inédite depuis une décennie, Justine Fontaine.
Une forte hausse qui porte à 5,5 millions le nombre de personnes qui n'ont pas d'emploi du tout ou pas d'emploi stable en France. Les jeunes sont particulièrement concernés. Parmi les raisons de ces mauvais chiffres, l'inflation ou encore la fin des aides de l'État mises en place pour faire face à la crise du Covid. Et puis, l'incertitude liée au nouveau mandat de Donald Trump et à l'absence pour l'instant d'un budget. Un contexte qui n'incite pas les entreprises à investir ni à embaucher. Résultat, les faillites se multiplient dans l'industrie, le bâtiment ou encore le commerce. L'OFCE, l'un des centres de recherche sur l'économie française, anticipe 125 000 destructions d'emplois cette année. De quoi faire craindre une nouvelle hausse du chômage dans les mois à venir. Des chômeurs qui seront moins protégés qu'avant, car depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, il y a eu pas moins de 4 réformes de l'assurance chômage pour réduire la durée et le montant de l'indemnisation des chômeurs.
Justine Fontaine. Et puis on connaît les groupes de la CAN 2025. Le tirage au sort de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a eu lieu ce lundi près de Rabat au Maroc. Le pays organisateur, pas épargné par le tirage, affrontera le Mali, quart de finaliste de la précédente édition, ainsi que la Zambie et les Comores. Le groupe de la mort revient à la poule B, le plus relevé, avec l'Afrique du Sud, l'Angola, le Zimbabwe et l'Égypte. L'Égypte, recordman du nombre de titres avec 7 CAN remportées dans son histoire. RFI, il est 2h10 à Paris, une heure de moins en temps universel.